préoccuper d'ailleurs de quoi. La consommation, c'est bien le reflet de la confiance que chacun a dans l'avenir. Le sujet qu'il faut chausser ses lunettes pour observer comment avoir une fièvre consommatrice et en même temps de la morité. Bref, depuis, les 30 consommateurs ont changé. Gilles Lipovetsky, auteur en particulier de « Le bonheur paradoxal, la société d'hyperconsommation » publié chez Gallimard, et de « La société de déception » à paraître en septembre chez Textuel.
Je pense qu'on continue à parler de société de consommation avec le modèle qui s'est mis en place, comme vous le dites très bien, avec les 30 Glorieuses, à partir en gros des années 50. Par rapport à ce modèle, des comportements, des attitudes et même des valeurs nouvelles sont apparues qui autorisent à parler de ce que j'ai appelé une société d'hyperconsommation pour la distinguer de la société de consommation de masse. La société de consommation de masse, elle est née d'abord à partir dans l'après-guerre et elle s'est heurtée à des comportements traditionnels. Elle a modernisé les comportements. La société d'hyperconsommation, ce n'est pas le cas, parce que tout le monde a été élevé, formé dans cette société de consommation. Donc on est dans une spirale qui n'est plus que d'hyperconsommation. Maintenant, alors qu'est-ce qui a changé? Plusieurs traits sont importants. Alors je dirais le premier trait, c'est le passage d'une consommation centrée sur les ménages à une consommation centrée sur la personne, sur les individus. Alors les exemples, c'est très facile. Dans les années 50, on avait une voiture, une radio par famille. Maintenant, vous avez plusieurs postes de télé, plusieurs ordinateurs, naturellement plusieurs téléphones par famille. Donc, on est passé d'un consommateur à un hyper-consommateur qui peut du coup gérer son temps, son espace, son emploi du temps à la carte, indépendamment du contrôle du groupe. Ça, c'est un premier trait. Le deuxième trait, alors fondamental, c'est probablement le changement de culture de la consommation. On analyse la consommation, au moins depuis Veblen, depuis le grand chef-d'œuvre sur les loisirs, la classe des loisirs. La consommation, selon le modèle de Veblen, c'est que on n'achète pas une chose pour elle-même, on l'achète pour être intégré dans un groupe, pour être admiré, pour être valorisé, pour susciter l'envie, le désir des autres. Donc c'est le rapport à l'autre qui prime. Et il appelle cela une consommation ostentatoire. Ce modèle de la consommation ostentatoire, c'est-à-dire une consommation en vue de l'autre, pour la frime, on dirait aujourd'hui, pour paraître.
Pour le statut social aussi, peut-être.
Alors, si vous voulez, ce modèle-là, il existe toujours. Les nouveaux riches, les snobs, il y en aura toujours. Mais, en même temps, on voit se développer des types de consommation qui ne rentrent plus dans ce modèle. Alors, je vous prenais juste un exemple pour bien le montrer. Et un exemple capital pour l'avenir. C'est le fantastique développement des consommations médicales. Vous avez, comme vous savez, un phénomène énorme, puisque la sécurité sociale est en crise, il y a des déficits permanents, chroniques, etc. Les gens vont de plus en plus chez les médecins, ils consomment de plus en plus de médicaments, il y a de plus en plus d'analyses. Alors je souhaite du plaisir à ceux qui voudraient analyser ce type de consommation selon le modèle de la consommation ostentatoire. On consomme là parce qu'il y a une inquiétude, une anxiété qui se rapporte à votre santé, qui se rapporte à vous. Ça, c'est un exemple. Mais on pourra en donner bien d'autres. Qui aujourd'hui va penser que vous achetez un mobile pour la frime? Peut-être chez des très jeunes ados. Mais après, c'est évidemment pas le cas. Vous achetez un téléphone portable pour être en contact, pour appeler et être appelé, voire pour prendre des photos, voire pour, et aujourd'hui, voir certains programmes de télévision qui seront diffusés par ce canal. Mais nous ne sommes plus là, fondamentalement, dans ce modèle-là. L'hyperconsommation a diffusé dans tous les groupes sociaux tous ces biens de consommation, de sorte que ce ne sont plus aujourd'hui des emblèmes de statut, et ce sont au contraire des emblèmes, je dirais, ou des instruments émotionnels. La consommation qui se développe...
Émotionnel ou utilitaire.
Ou utilitaire, absolument. Mais dans ces achats plaisirs, il est, je crois, très simpliste de continuer à les faire fonctionner selon le modèle de la distinction sociale. De très nombreux secteurs de ce type de consommation sont faits pour quoi ? Pour vous évader, pour changer d'air, pour vivre, pour sentir des choses que la vie quotidienne ne vous donne pas. Et l'individu d'aujourd'hui, c'est un individu stressé, c'est un individu qui veut vivre, qui a un appétit de renouvellement. Et le grand mérite de la consommation, c'est que elle introduit dans l'existence quotidienne des petits événements. Ça bouge, ça fait bouger des choses. Vous prenez l'avion, vous partez, vous passez le week-end à Grenade. Et à ce moment-là, vous avez pendant 15 jours, deux jours, un changement dans votre cadre de vie. C'est la consommation, dans ce sens-là, elle est beaucoup plus palliative, elle est presque thérapeutique, et non pas ostentatoire. Vous ne le faites pas pour les autres, vous ne le faites pas pour vous montrer, vous le faites parce que vous en avez besoin d'une certaine manière pour changer d'air, et je pense d'une certaine façon pour rajeunir votre sentiment d'existence.
Évidemment, dans...